France Inter. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Qui ne s'est pas retrouvé dans un train avec un enfant derrière vous qui bourre votre siège de coups de pied, un autre qui redouble le volume de sa colère lorsque ses parents lui expliquent que ce serait bien s'il pouvait se calmer un peu. On rêve à ce moment-là de silence et de zénitude. Eh bien, il existe désormais de plus en plus d'endroits où les enfants ne sont pas les bienvenus. En général, c'est une mention assez discrète, souvent en anglais. Adults only, no kids, au restaurant, dans certains hôtels, sur les bateaux de croisière ou encore à la plage, parce qu'en bon français, c'est plus cru, interdit aux enfants. Les moins de 12 ans, voire de 16 ans, sont priés d'aller faire du bruit plus loin et c'est devenu un élément marketing. La tendance est encore embryonnaire, mais le gouvernement a déjà décidé de contre-attaquer. Il a lancé le week-end dernier le label « Le choix des familles 2025 » pour que les établissements ouverts aux familles se fassent connaître. Derrière cette tendance « No Kids », c'est la place de nos enfants dans la société qui est en cause. Est-ce un signe d'individualisme forcené ? Va-t-on vers une forme de ségrégation générationnelle ? Et si on commence avec les enfants, bah pourquoi pas les plus âgés demain ? C'est notre vivre ensemble que l'on interroge ce soir dans Le Téléphone Sonne. Soyez les bienvenus.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Arnaud. Arnaud, est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
C'est vous qui commencez l'émission, nous vous écoutons.
Eh bien oui, mais moi j'ai réagi à votre sujet parce que moi j'ai des enfants.
Oui.
Et donc moi, bon, mais bien sûr, je suis complètement contre ce phénomène. Mais en même temps, comme je vous le disais dans mon message, je le comprends. Parce que je trouve que, ben, vous l'avez dit, la société elle s'individualise. Et on le ressent dans le comportement des parents. Pour moi, c'est un comportement un peu général qu'on retrouve même, par exemple, quand on va au restaurant et que les gens fument à côté de vous et vous balancent la fumée dans la figure. Ce genre de situation-là, et avec les enfants, eh ben, moi, je trouve qu'il y a plein de moments où eh ben, ils sont pas gérés, tout simplement. Quoi. Ils sont pas, ça manque de politesse, ça manque d'éducation. Voilà.
Ils sont mal élevés, en fait, vous êtes en train de nous dire.
Ils sont mal élevés, et ça touche tous les milieux. C'est pas une histoire de classe sociale, etc. C'est que on voit maintenant, on voit passer des théories, il faut plus leur dire non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, comme si un enfant, on pouvait pas lui expliquer que ça c'est pas bien, et que ça c'est bien, et qu'après on n'allait plus l'aimer. Ça n'a quand même strictement rien à voir. On aime nos enfants, on les chouchoute, on les câline, mais quand ils font une bêtise, eh ben on leur dit qu'ils font une bêtise. Et quand il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et dans l'espace public, moi je trouve que ça devient assez insupportable de voir des comportements complètement hallucinants, où il n'y a aucune réaction des parents. Les parents sont figés sur leur téléphone. Je sais pas, un gamin, il rentre dans un bureau de tabac, il voit des cartes postales, il prend les cartes postales, il les met par terre. On voit des choses comme ça complètement incroyables, quoi. Voilà, c'est tout.
Et à ce moment-là, d'ailleurs, au moment où vous avez vu ça, vous êtes intervenu ou pas ?
Ah ben alors ça, c'est absolument génial comme, comme question. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, on passe vraiment pour des gens insupportables. C'est-à-dire qu'on peut, pas dire... On peut plus dire les choses aux gens, quoi. On peut pas dire à un enfant non, comme on voyait dans les campagnes, quoi. Alors moi, je suis pas pour le, c'est pas le retour en arrière, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste de la politesse, quoi.
Politesse. Donc en gros, votre discours, Arnaud, c'est de dire, il s'agit pas de les exclure, mais il s'agit de les éduquer, si j'ai bien compris.
Oui.
Voilà.
Si les enfants, si tout le monde est éduqué normalement, si un gamin il pleure, il a le droit de pleurer. Si un gamin il rit, il a le droit de rire.
Oui.
Par contre, si, comme vous l'avez dit, il tape 65 fois sur votre siège arrière et que personne ne dit rien. Ben ça, forcément que la population globale en a marre, quoi.
Nous voilà au cœur du sujet. Merci pour cette introduction, Arnaud. Pour en parler avec vous, je salue Clara Georges qui est en studio avec moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste des questions de société et de parentalité. Nous sommes en ligne avec Sylvain Vagnon. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire et de sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Et en ligne aussi Tara Gervais. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Créatrice de contenu et entrepreneuse, le compte Instagram Le Club des Familles, c'est vous. Et vous recensez les adresses d'établissements ouverts aux familles. Donc vous avez entendu Arnaud qui nous dit en gros, il ne s'agit pas d'exclure les enfants, mais de les éduquer. Sylvain Vagnon.
Bah oui, je pense que ce que a dit Arnaud est tout à fait vrai. Il y a une question de politesse, une question de respect quand on est dans l'espace public. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Ce n'est pas une évidence, justement, mais peut-être que c'est vrai qu'il faudrait le rappeler. Quand on parle de nos kids, ça, c'est autre chose. Hein. Là, on parle vraiment plus d'une ségrégation intergénérationnelle. Hein. On voit ça interdit. C'est l'idée, quand même, très forte hein, d'assumer le fait qu'une partie de la population, et en l'occurrence les enfants, ne puissent pas aller dans certains espaces. Et vous l'avez très bien dit en introduction, je pense que ce qui pose problème, c'est que si on commence par les enfants, on peut aussi dire que les personnes âgées marchent pas assez vite et donc certains lieux ne leur seraient interdits. Donc je pense que c'est là où il faut qu'on place ça. Il y a un côté évidemment important parce qu'on parle d'éducation familiale, d'éducation ici dans l'espace public. Mais il faut rappeler quand même que notre objectif est quand même que tout le monde puisse avoir accès.
Oui, bien sûr. Mais ce qu'on entend quand même, Clara Georges, c'est que la fameuse éducation positive dont on nous a rebattu les oreilles ces dernières années, il y a quelque chose qui ne passe pas en ce moment.
Oui, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans les anecdotes livrées par Arnaud, c'est qu'il fait lui-même directement le lien avec ce qui relève plutôt d'une forme de désaccord idéologique sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que pour lui, la difficulté n'émane pas du fait, le problème n'est pas d'interdire les enfants dans l'espace public, mais de parvenir à mieux les maîtriser. Mmh. Or, je pense que ça vient soulever un point assez fondamental aujourd'hui qui est quelle place on veut donner à nos enfants.
Oui, oui. Quelle place dans la famille avant de poser la question du quelle place dans notre société, en fait.
Exactement. Et par exemple, si on prend l'exemple du restaurant, je pense qu'il est assez intéressant parce que il y a en France une tradition culinaire qu'on connaît tous,
oui.
Qui a longtemps été assortie d'une très faible présence, je pense, des enfants dans les restaurants, où du silence des enfants, tout comme à table pendant des décennies. Les enfants intervenaient très peu, en tout cas ils n'intervenaient pas sans qu'on leur donne la parole. Aujourd'hui et depuis un petit moment, pas uniquement sous l'influence de l'éducation positive, on considère que les enfants ont le droit et l'envie de participer aux conversations familiales, ce qui s'exprime dans les repas à la maison, mais aussi au restaurant. Donc évidemment, il ne s'agit pas de crier, de taper du poing sur la table, de jeter sa nourriture par terre. Là, bon, il est évidemment question de cadre et de frontières, mais de savoir quelle place on veut donner à l'enfant. Est-ce qu'on veut l'inclure dans un dîner familial au restaurant, ou est-ce qu'on préfère le laisser à la maison pour dîner tranquille?
Qu'est-ce que vous en dites, Tara Gervais?
Écoutez, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Après, là, effectivement, ce qui était relevé par Arnaud, c'est plus des problèmes de respect et d'éducation. Effectivement, sur le no-kid, c'est quand même un phénomène qui est quand même très discriminant aujourd'hui. On discrimine, j'ai regardé les chiffres, les enfants de moins de 3 ans, c'est 2,1 millions de personnes en France, donc c'est quand même une grosse discrimination. Et pour moi, le vrai problème, c'est justement aujourd'hui qu'on n'a pas assez de lieux justement qui accueillent les familles. Et c'était justement pour ça que j'ai créé cette page, le Club des Familles, il y a plus de 2 ans, pour justement référencer et mettre en avant ces lieux qui, eux, accueillent, parce qu'aujourd'hui, il y en a encore malheureusement trop peu.
Et comment vous l'expliquez, ça, qu'il n'y ait pas assez de lieux aujourd'hui?
Je pense qu'effectivement, comme disait justement Clara juste avant, c'est qu'il y a aussi un côté très sérieux sur la nourriture en France. Les enfants avant étaient peut-être pas accueillis au restaurant. Il y a une vraie culture en France qui est très particulière, qu'on ne voit pas forcément à l'étranger d'ailleurs. Quand j'ai l'occasion de voyager avec mes enfants, je ne vois pas ça dans d'autres pays. Il y a quand même quelque chose qui est qu'en France, voilà, c'est pas été, ça commence maintenant. Il y a peut-être aussi une liberté, j'ai l'impression, de la parole qui s'est un peu ouverte sur les sujets de parentalité ces dernières années. On voit de plus en plus de comptes, hein. On voit le BIS, le podcast BIS, la matrescence qui ont vraiment permis d'ouvrir la parole sur pas mal de sujets. Et ça, je pense que ça a permis aussi un éveil qui manquait, que aussi cette partie de la société était un peu exclue. Et quand on dit exclue, c'est pas que les enfants, c'est les parents aussi. Moi, je pense que typiquement, c'est pour ça que j'ai commencé cette page-là et je me suis concentrée principalement justement sur les restaurants. Parce que pour moi, les restaurants, c'était aussi un lien social. Quand on est en congé mat, le postpartum, c'est un vrai sujet aussi. Typiquement, postpartum, moi, quand j'allais chercher du lien social, j'allais me poser dans un café. Dans le café, je me retrouve à changer mon bébé dans la poussette parce qu'il n'y a pas une table à langer. Tout de suite, je dérange tout le monde. Mais en même temps, rien n'a été pensé pour pouvoir m'accueillir aussi. Pourtant, les familles représentent une grande partie de la population.
Sylvain Vagnon, vous le constatez, vous aussi, comme le dit Tara Gervais, rien n'est prévu finalement dans notre pays pour les enfants dans l'espace public.
Oui, tout à fait. Ce que je pense, c'est que les enfants étaient dans l'espace public. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques décennies, on pouvait dire à un enfant, on va jouer dehors. Il y avait quand même cette idée, quand on voit même ces plus anciens, mais enfin les photographies de Douaneau, on voit bien que les enfants sont très présents dans les rues, on va dire comme ça. Et on voit très bien que de plus en plus, les enfants, il y a eu un repli, en tout cas sur la maison, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de quand même, il faut le dire, de la voiture qui a quand même pris beaucoup dans l'espace public. Et donc là, maintenant, effectivement, c'est pour ça qu'on essaye aussi de permettre aux enfants d'être partout. Et donc, ce mouvement No Kids, on voit bien que c'est là où c'est compliqué, parce que ça semble un retour un peu en arrière, dans le sens où ça laisse aussi les enfants, ça exclut les enfants. Et on sait bien qu'une société qui commence à exclure, parce que c'est quand même aussi, effectivement, un problème familial, mais quand même de société, que quand on commence à exclure les enfants, bah, c'est une société aussi qui ne fait plus société. Mmh. Et ça, quand même, il faut... Le reprendre là-dessus, parce que souvent on a tendance à tolérer l'enfant, finalement, quand il est discret, docile, voire invisible. Un enfant est un enfant, et c'est vrai qu'il a, de ce côté-là, sa place, et il doit avoir sa place dans l'espace public.
Et Clara Georges ?
Oui, je dirais même si on veut pousser le bouchon un petit peu plus loin en ce sens, il y a des réflexions aujourd'hui qui existent sur ce qu'on pourrait qualifier de discrimination faite à l'enfant, et c'est le cas par exemple de la pédopsychiatre Laëlia Benoît qui a publié un livre qui s'appelle Infantisme récemment. Elle dénonce une société tout entière qui ne considère pas les enfants comme des êtres à part entière, qui ne prend pas en compte leurs paroles. Ça s'exprime évidemment par leur place ou leur absence de place dans l'espace public que vous connaissez bien Sylvain Vagnon, mais aussi par notre incapacité à prendre au sérieux la parole des enfants et des mineurs. Mmh. Elle parle de Greta Thunberg, des moqueries qui ont pu avoir lieu face à toutes les revendications des mineurs. Donc ça suscite toute une réflexion sur la place des enfants et de leurs paroles.
Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Vous écoutons, soyez la bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup. Mais en fait, je ne vais pas apporter grand-chose de nouveau parce que je trouve moi aussi que c'est extrêmement choquant de pas nos kids. Et puis après, on peut dire aussi pas de vieilles personnes, pas de cheveux blancs, c'est pas beau avoir les rides, donc pas de gens ridés devant moi au restaurant. Et puis on finit en white only, quoi. Je trouve ça aberrant. Et par ailleurs, moi aussi, il m'est arrivé d'être dérangée par des bruits des enfants, que ce soit des bruits trop forts des enfants dans un restaurant ou dans le train, mais en autre cas, je prends mes responsabilités. Quoi.
C'est-à-dire
je m'adresse à l'enfant.
Alors, ça c'est une bonne question.
Pardon jeune homme, ou pardon jeune dame, ou jeune fille, voilà, quel que soit l'âge, même si t'as 3 mois, voilà, pardon jeune homme.
Oui.
Est-ce qu'il serait possible de parler moins fort, s'il vous plaît, parce que ça me casse les oreilles.
Et ça marche ?
Bah ouais, ça marche.
Et ça marche avec les parents aussi, parce que souvent, les parents n'aiment pas trop ça.
Alors je dis pas qu'ils apprécient, mais je me suis encore jamais fait insulter.
D'accord, mais ils engagent la conversation avec vous ou
Pas nécessairement, ils peuvent me regarder avec des gros yeux, tout ça, mais en même temps, ils ont conscience qu'un enfant qui crie dans un restaurant ou qui ne peut pas... Des enfants qui font du bruit dans un train, c'est pas le lieu. Donc, donc voilà. Mais tout ça, mais vraiment sans aucune animosité, quoi.
Oui.
Gentiment, excuse-moi, jeune homme, mais là, ça fait vraiment du bruit, ça me casse les oreilles.
C'est intéressant ce que
vous voudriez parler moins fort, quoi.
Absolument. Voilà, c'est intéressant ce que dit Catherine Clara Georges. Elle s'adresse directement à l'enfant. Les parents, en général, sont assez frais quand on fait ça.
Oui, ça m'étonne pas tellement.
Ça m'est déjà arrivé, ça passe pas très bien.
Non, c'est pas très agréable en tant que parent. Mais pourquoi en fait ? Parce que je pense plus aujourd'hui qu'auparavant, on a l'impression d'être entièrement responsable de nos enfants, de leur éducation, de leur manière d'être. Ce qui fait que la moindre interrogation sur le comportement de cet enfant nous revient en boomerang comme une critique de ce qu'on est nous-mêmes. Et ça a trait quand même à une société qui s'est fondamentalement repliée sur la sphère familiale, avec moins d'interactions sociales. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça rejoint la problématique de la place des enfants dans la ville. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on ne laisse plus tellement les enfants jouer dehors, parce qu'on ne fait plus confiance à un tissu de quartier, les commerçants, les voisins, les gens qu'on connaît, pour s'occuper de nos enfants correctement, eh bien, de la même manière, on n'accepte plus non plus qu'un tiers vienne intervenir dans notre manière d'être avec nos enfants.
Qu'est-ce que vous en dites, Sylvain Vagnon ? Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu au cœur du sujet quand même là.
Oui, tout à fait. Et Clara a tout à fait raison de placer ça à la fois sur la participation des enfants et puis aussi sur le fait que quand on parle d'éducation, on est très vite jugeant. On juge très vite. Mmh. On accepte très peu de choses des autres enfants alors que pour les siens, on pourrait l'accepter. Donc c'est un premier élément. Le deuxième élément plus large et qui vient d'être mis, c'est effectivement si on veut développer ce qu'on va appeler l'autonomie des enfants, c'est aussi ça. Mmh. Et ben justement, il faut leur donner une place. Il faut leur donner une participation, il faut être capable de les écouter aussi. Et on voit bien que les villes qui s'appellent villes à hauteur d'enfants, justement, appuient là-dessus.
Parlez-nous de ces villes à hauteur d'enfants, justement, puisque vous êtes sur le sujet. Il y a un certain nombre de grandes villes comme Lille ou Strasbourg où ils considèrent que l'espace public est un bien commun, c'est ça. Mais comment ça se matérialise ?
Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a effectivement la ville de Lille, de Montpellier, de Nantes, enfin, si vous regardez, de Rennes. Bon, donc, beaucoup de métropoles se posent la question véritablement des enfants dans la ville. En se pensant aussi, une idée importante, c'est qu'une ville qui est pensée pour les enfants est aussi une ville meilleure pour tous. Et ça, c'est important. Hein, l'accessibilité, le fait d'être inclusif, en tout cas, peut être sur l'ensemble. Alors, c'est des choses souvent très concrètes. Hein. On voit bien que c'est aussi ce qui s'appelle des rues scolaires, c'est-à-dire permettre à côté des écoles d'avoir justement des rues piétonnes qui permettent notamment aux parents de venir et de discuter, d'être aux abords de l'école en toute sécurité, et aussi de permettre aux enfants ce genre de choses. Ça peut être aussi, et de plus en plus, mais ça vient aussi d'autres pays, il n'y a pas que la France, mais Lille vient de le faire, un label qui s'appelle un lieu ami des enfants, ou par exemple des commerçants ou d'autres choses, un enfant qui se promène sait qu'il peut avoir ici de l'aide, il peut avoir un accès à l'eau, à des toilettes, appeler un parent. Donc en gros, faire que les enfants se sentent mieux, en tout cas dans cet espace public. Et puis, grâce à cette idée de ces villes, encore une fois, c'est à travers l'enfant, c'est bien repenser aussi cet espace public pour tout le monde. Et c'est ça qui me semble le plus important.
Absolument tout le monde, voilà. Tamara Gervais, j'imagine que ça va dans le même sens que le Club des Familles, les villes à hauteur d'enfants. Vous avez des partenariats, si j'ose dire, avec ces villes-là? Comment ça se passe?
Alors en fait, nous, on marche avec un réseau de dénicheurs. Donc en fait, on a une communauté de plus de 9000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Et en fait, tous les parents peuvent référencer les lieux. D'accord. Donc là, on était principalement en Île-de-France. Et donc là, on concerne des personnes à peu près dans toute la France qui commencent à se manifester et qui remplissent du coup le questionnaire. Et donc nous, on marche avec un questionnaire. Et justement, ils viennent de manière très factuelle dire voilà, qu'est-ce qui est en place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est maintenant de plus en plus contactés par les lieux. Donc, il y a une vraie envie aussi des lieux maintenant voilà, de se manifester pour dire qu'ils ont envie d'accueillir les enfants. Et surtout, ils s'adaptent. Parce que c'est vrai que toutes les discussions là, qu'on entend depuis tout à l'heure, effectivement, sur par exemple des exemples dans le train, et le train est un super exemple, c'est qu'aujourd'hui, tout a été aussi pensé pour des adultes. Et effectivement, l'exemple des villes, c'est un exemple marquant.
On va y venir au transport, oui.
Exactement. Et les restaurants, ils sont aussi un bon exemple. Et en fait, c'est un peu le même exemple avec les vélos dans la ville il y a quelques années. Moi, je suis aussi cycliste à Paris. Mmh. Et c'est vrai que, en fait, c'était pas du tout adapté avant. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est qu'en fait, tout n'est pas adapté. Et donc, du coup, ça crée ces comportements, des deux côtés, qui créent des incompréhensions et malheureusement qui divisent, alors qu'on aurait pu s'unir pour essayer de trouver des solutions. Et c'est typiquement comme ça qu'était d'ailleurs né le Club des Familles pour trouver des solutions. Et il y a une grosse partie aussi influence qu'on fait auprès des lieux. C'est-à-dire que moi, quand je visite des lieux, en général, je leur fais des retours sur ce que j'ai pu voir en disant, regardez, vous avez des espaces typiquement là pour mettre une table à langer. Ou typiquement, c'est des questions d'inclusion. On voit encore beaucoup de tables à langer que dans les toilettes des femmes. Donc, typiquement, il y a un lieu, il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, tant que vous ne mettez pas chez les hommes, et en plus, vous avez l'espace, je ne vous référence pas. D'accord. Et un mois après, ils l'ont fait. Donc, il y a quelques petites victoires, et c'est hyper important aussi d'avoir ce rôle dans la société de créer la discussion pour justement que ça se fasse.
Absolument. La discussion, on est en train de la créer justement ce soir tous ensemble. Si vous nous rejoignez sur France Inter, on parle de la tendance No Kids tous ensemble, et notamment avec Laurent qui nous appelle d'Angers. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Laurent.
Oui, donc c'est moi le méchant monsieur qui aime pas les enfants.
Mais je vous en prie, allez-y.
Non, c'est une blague. Oui, donc en fait, pour moi, faire des enfants, donc c'est un choix personnel. C'est un choix que je n'ai pas fait et je vois pas pourquoi je devrais supporter la présence des enfants partout. Mm-hmm. De plus, la plupart des parents partent du principe que faisant partie du modèle social dominant, ils peuvent imposer leurs enfants partout et que tout le monde adhère à leur présence. Donc les enfants, oui, bien sûr, dans la société, aucun souci, mais pas partout. Je vais prendre une petite anecdote que j'ai vécue il y a 15 jours. Donc j'habite Angers, j'ai décidé d'aller faire un week-end à Paris. Et puis, je suis allé dans deux parcs du côté de Boulogne-Billancourt. Donc ça, c'était le samedi. Mmh. Les deux parcs étaient bourrés de repas d'anniversaire. Donc des tables, des ballons, des enfants, mais partout, partout, partout. Donc en fait, du bruit partout. Et en fait, je n'ai pas pu profiter du parc. Mmh. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que on part du principe que voilà, les enfants sont là, on fait partie du modèle social dominant et donc on les impose partout. Mmh. Donc, petite chose aussi concernant la comparaison avec les personnes âgées. Personnes âgées, on y passe à tous. Donc c'est pas un choix, on y arrivera à un moment donné. Donc les exclure, non.
On a tous été des enfants, Laurent.
Oui, alors mais par contre, ce que je remets pas en cause.
On se souvient pas forcément du bruit qu'on a fait à ce moment-là, c'est sûr.
Tout à fait. Mais pour moi, le problème, comme a dit le premier auditeur, où j'ai beaucoup adhéré à son intervention,
Arnaud, oui.
C'est pas les enfants le problème, c'est les parents qui leur donnent une mauvaise éducation ou qui les laissent tout faire. Ou les parents qui sont rivés sur leur téléphone et qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants. Pour moi, les enfants, comme vous disiez, on a tous été enfants à un moment donné. Mmh. Mais par contre, on n'est pas tous forcément parents. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un laisser-aller au niveau des parents qui laissent les enfants tout faire et partout. Mmh. Et en fait, oui.
Je vous en prie, terminez.
Oui, c'est juste pour dire que oui, s'il y avait des endroits où on pouvait informer le public comme quoi c'est un endroit où il n'y aura pas forcément d'enfants, ça pourrait être un plus.
Qu'est-ce que vous en dites, Sylvain Vagnon ?
Évidemment, je comprends. L'idée n'est pas d'imposer en été les enfants. Je crois que là, ce qui vient d'être bien dit, c'est une question aussi de respect. Peut-être que c'est aussi ça, hein, qu'on apprenne tous à vivre ensemble. Et finalement, ce vivre ensemble, il est peut-être à remettre. J'aurais envie aussi de faire une petite boutade. Hein, c'est que ces enfants, finalement, qu'on va interdire certains endroits, il faudra se méfier parce que quand ils seront adultes, faut pas l'oublier, c'est là qu'ils vont peut-être faire la même chose, notamment avec nous et avec les personnes âgées. Hein. Ils seront habitués aussi à ce qu'on ségrègue aussi la société. Hein. Donc ça, il faut quand même aussi y penser, mais blague à part, il faut quand même voir que...
Mais est-ce que vous pensez qu'ils le ressentent eux-mêmes, les enfants, ce côté no kids? Parce que c'est surtout les parents, en fait, qui s'en rendent compte.
Non, c'est très clair que, justement, on voit bien que toutes les villes, justement, qui tentent de le plus en plus de mettre la participation des enfants... On voit bien que ces enfants sentent bien, quand même, s'ils sont les bienvenus, ils ne sont pas les bienvenus. Faut bien voir que nos villes ont quand même aussi été pensées où les enfants, déjà, on les cantonnait, hein, certains endroits, dans des lieux, hein, aussi, des squares, etc. Donc, on peut penser ça. L'idée de dire maintenant que, justement, les enfants peuvent aller partout, moi, je suis totalement conscient, hein, effectivement, qu'un enfant trop bruyant, bah oui, s'il gêne les autres, là bien sûr qu'on doit intervenir.
Mais il y avait autre chose que je trouvais intéressant dans ce que disait Laurent, c'était la famille, c'est le modèle social dominant. Ça, c'est quand même une réalité.
Tout à fait, tout à fait. C'est une réalité, mais déjà de moins en moins, mais enfin, en tout cas, on va dire que c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire non plus que cette famille, effectivement, a tous les droits. Ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est pas du tout le discours hein, qui est tenu. Hein. Quand on parle justement de repenser l'idée d'un espace public pour tous, ça veut bien dire pour tous. Hein. Ça veut dire aussi les enfants, mais aussi d'autres, toute personne, hein, en tout cas. Et ça a été très bien dit, d'ailleurs, plusieurs fois et par l'auditeur. Et aussi par Clara, c'est-à-dire que on voit bien aussi que la ville, par exemple, a été quand même pensée pour les hommes adultes. Mmh, hein, il faut quand même le dire, il faut être très clair. C'est même pas que les adultes, c'est les hommes adultes. Et donc effectivement, là il y a un travail à faire. Et je pense qu'effectivement là c'est aussi intéressant parce qu'on n'est pas que dans une question commerciale. Hein. Bien sûr, on a bien compris que les entreprises avaient vu un intérêt hein, aussi d'interdire les enfants.
Il y a un intérêt
ici.
Marketing, évidemment.
Bien sûr,
évidemment, on l'entend. Mais là, par rapport à l'exemple qu'il donnait Laurent, est-ce que ce serait pas imaginable de créer dans un grand jardin public un petit espace au calme, réservé aux adultes. Ça vous choque, ça ?
C'est pas choquant en soi, hein. c'est pas l'élément de choquant parce qu'en réalité ça se fait comme ça. C'est-à-dire que si vous regardez dans justement des grands espaces, je pense que c'est aussi créer des espaces plus larges, plus grands aussi, qui permettent à tout un chacun d'y être. C'est effectivement qu'il y a un endroit où les enfants aiment bien jouer ensemble.
On va finir par trouver un endroit au calme, Clara Georges.
Oui, et puis je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est inversé dans la réflexion, ou du moins on pourrait l'inverser, c'est-à-dire que Laurent a été gêné, et je le comprends, par des hordes d'enfants fêtant leurs anniversaires probablement avec beaucoup de bruit de ballons, de cotillons, etc. Mais pourquoi ils sont là ? Parce qu'en fait, dans l'espace public, il n'y a guère que dans les espaces verts qu'ils peuvent se retrouver, et encore dans ces espaces verts, on voit bien que souvent c'est les aires de jeu, c'est des espaces clos, parce que la seule manière qu'on a de considérer la place de l'enfant dans les villes aujourd'hui, c'est au sein d'espaces clos et protégés. Ça rejoint la question de la peur des parents et de la sécurité. Mais si je voulais faire une petite boutade à propos de cette question du modèle dominant, que je trouve assez intéressante, on peut peut-être rassurer Laurent en lui disant que le taux de fécondité en France ne cesse de baisser. Donc avec un peu de chance, le modèle dominant ne le sera plus d'ici quelques temps.
Il faut juste qu'il patiente un peu.
Oui, voilà.
Quelques dizaines d'années quand même.
Quand même encore un petit bout de temps, oui.
Alors, on a une remarque de Marion sur l'application France Inter qui dit « N'y a-t-il pas des différences culturelles ? Au Moyen-Orient, nos enfants étaient accueillis avec joie et beaucoup de place leur était donnée, tandis qu'en Suisse, nos enfants se font reprendre par des inconnus quand ils se chamaillent. » Et Sylvain Vagnon ?
Bien sûr qu'il y a des différences culturelles. Je pense qu'effectivement, il y a des. C'est justement aussi à nous de trouver cet ensemble culturel qui permette que tout le monde puisse s'y retrouver. Je pense que le fait même de différents schémas, de différents modèles, on va dire aussi, de différentes cultures, la force, c'est justement ce partage. Je prendrai un exemple. On s'aperçoit que justement les villes qui s'intéressent à l'espace public réintroduisent beaucoup de bancs. De lieux, en tout cas, où on, plutôt convivial, où on s'aperçoit que finalement, tout le monde peut venir s'asseoir, peut venir discuter ou pas. Encore une fois, là, c'est justement l'idée de la liberté de chacun, de se retrouver aussi. Les enfants peuvent se retrouver à certains endroits, mais de lieux un peu de convivialité, on va dire, ici, dans cet espace public. Et ça, c'est un travail évidemment énorme pour les collectivités locales, parce qu'on voit bien que l'aménagement de l'espace n'était absolument pas prévu pour ça.
Et cette tendance, Kids, elle a à peu près une dizaine d'années et elle nous vient d'Asie, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que c'est les grands ensembles, on va dire, balnéaires internationaux qui ont eu tendance à faire ça pour interdire un petit peu, pour permettre en tout cas à des jeunes adultes sans enfants ou à des couples qui n'avaient plus d'enfants parce qu'ils étaient grands, de se retrouver, voilà, sans enfants. Donc il y a eu ça, puis c'est vrai que c'est revenu par l'Europe du Sud, et puis là maintenant, ça, en France, depuis une dizaine d'années, on voit fleurir un petit peu ce qui a été dit depuis le début, justement, des éléments. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'invisible, qu'on ne voit pas bien, mais par exemple, on voit bien que certains hôtels ont vite tendance, et c'est un no-kids déguisé, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes deux, vous avez la chambre, mais si vous voulez dire à votre enfant de venir, là, d'un seul coup, vous avez une surtaxe quand même pour un lit supplémentaire qui est assez énorme, on va dire quand même. Donc finalement, des fois, c'est un peu déguisé.
Oui,
tout
c'est
à
ça.
Fait, assez dissuasif.
Oui, parce qu'on rappelle que le principe du réservé aux adultes, il est strictement interdit.
Et tout à fait, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça qui est aujourd'hui, justement, votre émission est, à mon avis, assez importante, parce qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on dialogue, parce qu'on ne va pas être dans l'interdiction indirecte avec des amendes, etc. Mais concrètement, effectivement, il y a quand même des choses juridiques, et notamment une convention internationale des enfants, qui fait que les enfants n'ont pas à être discriminés, premièrement, et ont droit de se retrouver dans tous les espaces, évidemment, d'un espace public. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que, d'ailleurs, la haute commissaire... À l'enfance a mis le haut là, justement, à partir de fin mai, en alertant justement les fédérations de tourisme, en leur précisant justement que là, il fallait inverser un peu ce mouvement qui était finalement à la fois économique, on le comprend bien, qui voyait un intérêt, mais qui pour elle, là aussi, avait un effet démocratique, de que tout le monde puisse être dans cet espace.
À Clara Georges.
Oui, ça fait écho à un article qu'on a publié dans Le Monde il y a un petit moment qui parle de la Corée du Sud et qui raconte qu'en Corée du Sud, le mouvement No Kids est très développé, il est beaucoup plus développé que chez nous et ça donne un peu un exemple de ce à quoi ça pourrait aboutir si vraiment en France ça se répandait. C'est-à-dire qu'ils ont recensé là-bas dans le pays des 542 No Kids Zones avec parfois des panneaux où il y a écrit « interdit aux enfants et aux animaux de compagnie ». Et ça a donné lieu à une réponse de la Commission des droits humains en Corée, qui a rappelé que c'était discriminatoire et que c'était interdit. Et pourtant, en Corée, la majorité des Coréens trouvent acceptable le fait d'interdire un certain nombre d'espaces privés et publics aux enfants. De la même manière que se sont développés en Corée du Sud, comme vous le disiez tout à l'heure, d'autres types de ségrégation, c'est-à-dire il y a des restos qui sont aujourd'hui interdits aux plus de 60 ans, des restos qui sont interdits aux étudiants.
Ah oui, ça existe déjà là-bas.
Ça existe absolument,
ah oui.
Ouais.
Nous, on en parle comme si c'était une
fiction. Non, mais ça existe
une
là-bas.
Une dystopie, on va dire, mais ça existe en Corée du Sud.
Mais oui, donc ça pose effectivement, à long terme quand même, la question du vivre ensemble.
Ah oui, absolument. Bonsoir Solène.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, moi je voulais témoigner, on est parents de deux enfants. Nos enfants, voilà, au restaurant se tiennent très bien, ça se passe super.
Oui.
Ils sont adorables et on les aime beaucoup, mais on a de temps en temps besoin d'avoir des espaces et des temps entre parents, entre adultes, sans enfants et sans les enfants des autres aussi. Et nous, on a, par exemple, pour notre voyage de noces, on est allé en Espagne dans un hôtel, et on était très contents de pouvoir se reposer une semaine sur la plage sans enfants.
Oui.
Et on a fait aussi un mariage sans enfants. Et au final, nos familles, nos amis nous ont remerciés parce que ils n'avaient pas les enfants à aller coucher et de partir trop tôt, d'enfants à changer, d'enfants à accompagner à table. Et ils ont vraiment profité de leur soirée. Donc ce no kids, j'entends tous les arguments, mais je trouve qu'il y a pour l'endroit des parents qui ont besoin de temps en temps de souffler, et qui sont tolérants et qui acceptent les enfants des autres. Il n'y a pas de problème, mais de temps en temps, d'avoir ces espaces-là pour les parents, c'est pas mal aussi.
Mmh. Clara Georges.
Oui, oui, je partage ce point de vue. J'ai même écrit une chronique sur le sujet qui m'a valu, je pense, les plus nombreuses réactions que j'ai jamais reçues. Donc, ma newsletter hebdomadaire d'Aaron Daron. J'avais fait une chronique un peu provoque qui s'appelait « Faut-il emmener ses enfants au resto ?» Et j'expliquais que parfois, j'avais quand même envie d'être au restaurant avec mon compagnon sans enfant. Alors, pas nécessairement sans les enfants des autres, mais sans les miens. Et rien que ça m'avait valu des réactions très très forte et épidermique. Je m'étais aperçue que ce sujet provoquait quand même une certaine colère chez les gens. J'entends...
Mais c'est intéressant parce que le mariage, c'est quand même le moment familial par excellence. Donc ça paraît assez paradoxal.
Et absolument. Et alors, il se trouve que justement, on s'apprête à publier un papier sur la question des mariages no kids qu'une de mes collègues m'a envoyé aujourd'hui et qui raconte que de plus en plus, dans les agences d'organisation de mariage, on a de plus en plus de demandes de ce type qui, à la fois, représentent un moindre coût. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire garder les enfants par des babysitters. En termes de logistique, c'est plus facile. Mais aussi qu'ils peuvent répondre, ça paraît un peu tordu, mais je pense que c'est vrai, un espoir de pouvoir faire des mariages plus instagrammables, plus propres, plus beaux, dans lesquels il n'y a pas vraiment d'enfants.
Sylvain Vagnon.
Oui, c'est vrai que sur l'idée des mariages, il y a quand même un vrai paradoxe. On a envie de se dire que c'est quand même une fête collective.
On a envie de se dire que c'est pas le moment, quoi.
Voilà, exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que aussi, et Clara l'a aussi dit, c'est-à-dire que je pense que ce qui touche derrière aussi, c'est que derrière la notion d'éducation, on va dire au sens très large, on a très vite tendance à juger et à stigmatiser. Et donc, ce qui fait que, évidemment, on stigmatise assez vite les parents. D'ailleurs, pour être très clair, plutôt les mères, d'ailleurs. Et on voit bien que ça aussi, c'est compliqué, parce qu'on se sent très vite jugé. Donc, on voit bien que quand on va avec ses enfants dans un espace, on va dire, dans la société, c'est là où, effectivement, on a aussi, d'un côté, on ne sait pas toujours comment faire, et puis on ne sait pas aussi si on va être jugé, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être aussi un côté un peu naturel qu'il faudrait qu'on voit aussi, où effectivement, une famille, à certains moments, elle n'a pas envie d'être avec ses enfants. Très bien. Ça,
oui.
Mais c'est pas tellement ça la question. Là, justement, c'est de commencer à se dire ne pas être quelque part, et puis ne plus accepter. Voilà, je crois que c'est cette ligne, en tout cas, qu'il faut
tenir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est Solène nous disait, mais nous, par ailleurs, on est parents de deux enfants. Et il y a eu une enquête au Doxa cette année qui disait que 54% des Français étaient favorables au développement d'espaces réservés aux adultes. Et cette idée était soutenu par 65% des 25-34 ans, c'est-à-dire ceux qui ont des enfants en bas âge. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on a soi-même des enfants, mais à un moment on a besoin de couper quoi, Sylvain Vagnon. Ah, je crois qu'on l'a perdu, Sylvain Vagnon. Ah,
non, voilà. Non, je vous entends.
Ah bah vous
oui,
êtes là, oui.
Oui, oui, pardon. Oui,
ça,
tout à
ça
fait.
Ça paraît avez... complètement paradoxal en fait.
Oui, ça paraît paradoxal au premier abord, on va dire comme ça. Mais oui. C'est vrai que c'est aussi la notion qu'on peut avoir aussi d'une famille, en tout cas, et de façon de se comporter. Je pense qu'encore une fois, tout existe. Hein. Donc déjà, il faut se dire que, encore une fois, une famille, à des moments, bah, c'est vrai qu'on peut être fatigué et qu'on a envie de faire certaines choses. On a aussi envie d'être avec ses enfants énormément et de les avoir, en tout cas, pour tous les moments de la journée. Et j'allais dire dans les vacances. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est appeler en tout cas à ce que chacun puisse faire ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est important, mais dans un espace public, évidemment, avec le respect des autres. Donc je pense qu'effectivement, il y a ça. Après, que des jeunes, voilà, je pense que l'expérience fait aussi qu'il y a plusieurs générations. Je reviens sur l'idée, hein, parce qu'il y a les grands-parents, enfin, etc. On voit bien aussi, il faut penser la famille, pas simplement parents-enfants, mais j'allais dire au sens large.
Mmh. Et au fond, on parle de l'individualisation de la société. Sylvain Vagnon, c'est ça la question qui est au cœur de notre sujet.
Dans votre, justement, et dans les chiffres, on voit une augmentation justement sur les jeunes générations, c'est cet individualisme. Cet individualisme qui effectivement se développe, est une tendance lourde de nos sociétés. La difficulté, c'est qu'une individualisation peut amener à une segmentation et oui, une fragmentation de la société. Puis quand même, je rappellerai, quand on parle des enfants, c'est des futurs adultes. Il faut quand même pas oublier que quand on se pose des questions comme ça, quand on tolère mal les enfants, c'est souvent quand même une société qui a du mal à se projeter dans l'avenir. On a beau, sans faire de grands schémas, c'est quand même souvent le cas.
Donc soyons tolérants, Tamara Gervais, et vive le club des familles.
Complètement d'accord avec tout ce qui est dit. Et juste sur l'intérêt économique, parce que ça a été cité un moment, et surtout ces plans marketing, et aussi une vraie aubaine en réalité pour ces restaurateurs, hein, parce que typiquement, moi je pense qu'il y a l'after work, mais aussi l'after school, les goûters. En fait, en vrai, on va sur les heures creuses de ces lieux-là, parce qu'en vrai, les lieux, nos kids, ils existent déjà. Oui. Quand on va dîner, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup être avec mon amoureux, et je j'ai besoin de ces moments-là
aussi pour mes enfants. J'ai bien compris.
Exactement.
On a besoin des deux, ça dépend des... on va dire que c'est le mot de la fin, Clara Georges, il n'est pas question de stigmatiser les enfants, mais on a besoin de moments pour respirer.
Voilà, exactement, je ne l'aurais pas mieux dit.
Merci beaucoup, merci à vous tous qui avez participé à cette émission, et merci à nos invités.